Confinement et égarement. Comme vous vous en souvenez peut-être, ni notre chancelier, ni du reste le baron Rothschild, dont ils espéraient que la famille leur verserait des millions, ne furent expédiés derrière des barbelés dans un camp de prisonniers. Traités apparemment en privilégiés, ils furent transférés dans un hôtel, qui était aussi le quartier général de la Gestapo, l'hôtel Métropole, et installés chacun dans sa chambre particulière. L'homme de peu que je suis bénéficia lui aussi de cet honneur insigne. À première vue, la chambre qui m'était attribuée n'avait pas l'air désagréable du tout. Elle avait une porte, un lit, une chaise, une cuvette pour se laver, une fenêtre à barreaux. Mais la porte restait fermée jour et nuit. Sur la table, il était interdit de poser un livre, un journal, une feuille de papier ou de crayon. La fenêtre ne donnait que sur un mur coupe-feu. On avait organisé tout autour de moi, et même sur mon corps, un total néant. On m'avait enlevé tout objet personnel. Ma montre, pour que je ne sache pas l'heure. Mon crayon, pour que je ne puisse rien écrire. Mon couteau, pour que je ne puisse pas m'ouvrir les veines. La moindre petite griserie comme celle d'une cigarette m'était refusée. Hormis le gardien, à qui il était interdit de prononcer un seul mot ou de répondre à aucune question, je ne voyais pas un seul visage humain, et jamais je n'entendais le son d'une voix. Du matin au soir, et du soir au matin, les yeux, les oreilles, tous les sens ne trouvaient rien à saisir. On était désespérément seul, réduit à soi, à son corps et à 4 ou 5 objets muets. La table, le lit, la fenêtre et la cuvette. On vivait comme un plongeur sous une cloche de verre dans l'océan noir de ce silence. Mais comme un plongeur qui pressent déjà que le câble le reliant au monde extérieur s'est rompu et que jamais on ne le tirera de cet abîme atone. Il n'y avait rien à faire, rien à écouter, rien à voir. On était de tous côtés et sans cesse environné du néant, d'un vide privé d'espace et de temps. On faisait les 100 pas, et dans la tête, vos pensées vous accompagnaient, marchaient elles aussi sans arrêt. Or, même si elles semblent immatérielles, les pensées ont besoin d'un point d'appui, sinon elles se mettent à tourner, à tourbillonner sans but sur elles-mêmes. Elles non plus ne supportent pas le néant. Du matin jusqu'au soir, on attendait quelque chose, et rien ne se passait. On recommençait à attendre. Il ne se passait rien. On attendait, on attendait, on attendait. On réfléchissait jusqu'à en avoir mal aux tempes. Rien ne se passait. On restait seul. 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 Stefan Zweig, Le joueur d'échecs, 1943. Traduit de l'allemand par Brigitte Wernquin et Gérard Rudan. Librairie Générale Française, Le Livre de Poche, 2013.